Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, peut-être taper. Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Je sais que toutes celles et ceux qui étaient là s'en souviennent. Je sais que celles et ceux qui ont ouvert leur sac en silence pour se faire contrôler à l'entrée du Divan du Monde le 17 novembre 2015 à Paris s'en souviennent. Nous fûmes nombreuses et nombreux quand retentirent les premiers sons de machines, les premières notes de chant et de violon à être traversées de frissons. Plein de concerts avaient lieu partout en France ce soir-là. Nous étions 4 jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis, partagés entre un immense froid dans le dos et la joie, comme reprise à son début, de pouvoir danser ensemble dans une salle pleine. Vous ouvriez le bal ce soir-là, Ernest Bergès, sous le nom de Sourdure, pour l'un de vos projets personnels. Sous ce nom, toujours paraît votre nouveau disque L'Esprova. Ça sort chez Pagan, c'est les disques du festival permanent. Et l'émotion est tout à fait intacte. C'est un très, très, très beau disque. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci. Vous vous en souvenez, vous, de ce 17 novembre 2015 ?
Oh oui. C'est un des souvenirs de concert, je pense, les plus marquants que j'ai. Parce que j'ai senti le frisson de la salle, mais très fort. Et c'était vertigineux parce que je me suis dit que probablement, pour une grosse partie des gens, c'était le premier concert qu'ils voyaient depuis les événements. Et moi, j'avais appris ce qui s'était passé à même pas 24 heures avant. Je venais juste d'apprendre et je débarquais à Paris, je comprenais rien à ce qui se passait. Et donc du coup, je me suis dit, surtout pas un mot, je fais mon concert et il va se passer ce qui va se passer. Voilà. Et ça a été une bonne leçon.
Ouais, c'était fou, je sais pas de quelle leçon il s'est agi pour vous, mais en tout cas, moi je me souviens très bien du Divan du Monde qui se remplissait petit à petit, juste après vous jouez le duo, d'ailleurs qui était pas du tout en duo, en tout cas le groupe Alt, et les gens venaient se mettre autour de vous, vous jouiez comme assez souvent au milieu des gens, et non sur la scène. Je crois que la totalité des membres du groupe de Alt à ce moment-là étaient dans la salle avec nous. Ouais. Et en effet, c'était absolument palpable ce frisson. Alors je sais pas, vous parlez de leçon, c'était quoi comme leçon pour le musicien que vous êtes ?
Bah déjà, d'abord, une sorte de d'apprentissage de très rapide de comment se comporter. Face à un public nombreux et dans une situation qui me dépassait complètement. C'est-à-dire que habituellement, je prenais le micro pour dire tout un tas de choses, parler de ce que je jouais, mais aussi je faisais des blagues, je disais des bêtises. Et là, j'étais partagé entre l'envie de faire comme d'habitude. Je me disais, mais est-ce qu'il faut que je fasse des allusions à quoi que ce soit? Et en fait, j'ai très vite compris que rien du tout. C'est-à-dire, en fait, je fais absolument pas le poids face à ce qui est en train de se jouer. Donc, j'arrive à Paris. Il faut que je fasse le concert, je vais essayer de le vivre. Et du coup, je crois que je l'ai vécu en même temps que les gens, avec l'étrangeté que ça avait. Parce que pour moi, c'était vraiment étrange. Et le plus fort là-dedans, c'est que j'ai senti une qualité de présence des gens exceptionnelle. C'est de l'ordre de l'épaisseur. J'ai senti l'épaisseur des corps dans la pièce. Et bon, bien sûr, le fait que je sois sur le parquet avec eux, ça jouait. Mais ça, alors, pour moi, c'était aussi une bonne leçon, dans le sens où maintenant je cherche à réunir les conditions pour qu'il puisse y avoir, voilà, avoir cette épaisseur, sentir les gens et faire en sorte que les gens puissent me sentir aussi.
Vous jouez dans différents lieux, on peut aussi parler de lieux plus petits, l'Olympique Café, mais aussi des balles dans différents endroits de la France. Qu'est-ce qui fait qu'être au milieu des gens, en dehors de conditions très particulières de ce soir-là, du 17 novembre 2015, change la manière dont vous proposez qu'on écoute votre musique ?
Alors, je vais parler des conditions un petit peu conventionnelles d'un concert, si on prend... un équipement fait pour faire des concerts, une salle faite pour faire des concerts. En général, c'est fait de façon à ce que l'espace où se joue la musique soit un espace à part de l'espace où on écoute la musique. Donc quand on est par exemple dans, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la maroquinerie.
Qui est une salle à Paris.
Qui est une salle à Paris, dans laquelle j'ai joué. Ben, la maroquinerie, la scène est haute de, je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais d'un mètre, de plus d'un mètre, 1,50 m. Donc déjà, on est au-dessus des gens. On est dans une boîte qui est pas complètement fermée, mais quand même bien, bien encapitonnée. On est éclairé et tout est fait pour que la lumière n'agisse que à l'endroit où on se trouve. Donc, en fait, on voit pas, ou peu, on est au-dessus, on n'entend pas la même chose que ce que les gens entendent dans la salle. Du moins, on a des réflexions, mais un peu brouillardeuses, mélangées avec le son qu'il y a sur le plateau. Et tout ça fait, à mon sens, qu'on est un peu loin de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire jouer face à des gens. Mais moi, je dirais jouer... avec les gens qui sont là, quoi, avec la présence des gens. Et donc ça, c'est difficile à manier, je trouve. Surtout pour moi qui suis tout seul et qui n'ai pas les ressources du collectif pour trouver de l'énergie, trouver dans l'interaction les ressources pour être dans le jeu, pour être dans l'inventivité, pour être dans l'ouverture... Et donc du coup, bah moi, les ressources, c'est les gens qui sont en face de moi. Ça peut paraître un peu une platitude, mais à l'exercice, j'ai vraiment senti que j'en avais besoin. Et donc voilà.
Donc vous descendez.
Ouais, quand je peux. Après, depuis, donc ça c'était en 2015. Depuis, j'ai quand même fait. Pas mal de dates et j'arrive mieux à m'adapter au format classique des salles de concert. J'ai appris j'ai trouvé un peu mes façons de faire. Je sais pas vraiment, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je retombe mieux sur mes pattes. Je pâtis moins de la coupure avec le public. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Des gens qui sont habitués à jouer dans les grandes salles, les énormes trucs. Ils arrivent à jouer dans un café-concert, ils sont là, les gens ils nous regardent. Voilà, donc bon.
Ce nouveau disque qui s'appelle L'Esprova, ça veut dire l'épreuve.
L'épreuve.
Pourquoi ?
Ben d'abord parce que ça a été une épreuve, d'un point de vue personnel. C'est un deuxième disque. Et faire un deuxième disque, je trouve pas ça facile parce que on a eu un premier jet avec tout un monde qui s'ouvre et derrière bah il y a plein de questions qui émergent. C'est est-ce qu'il faut continuer à ouvrir ce monde, est-ce qu'il faut continuer à rechercher beaucoup pour pas faire la même chose, est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut que ce soit plus pesant? Est-ce que ça? Enfin, du coup, il y a un rapport de comparaison qui se met en route et qui est, je pense, un peu piégeux. Et je l'ai senti. Et très vite, en fait, en travaillant sur le disque, alors même qu'il était très loin d'être fini, il était à peine entamé, j'ai eu ce mot d'esprobe qui m'a semblé évident, quoi. C'est que ce que j'étais en train de traverser, c'est une épreuve qui dure plusieurs années et qui est un processus, une nouvelle maturation lente. Voilà. Comme l'a été la première pour la virer. Donc voilà. L'esprobe, c'est pour aussi le processus. Ce processus de passage, en fait. De passage à une deuxième forme, un deuxième monde.
Sourdure, c'est un premier extrait de ce disque, L'Esprobe, et il s'appelle L'Entendu, et en fait, il fait figure d'une petite exception avec un autre titre qui est que c'est vous qui l'avez écrit, cette chanson, et qui l'avez entièrement composée. Je dis petite exception parce qu'on y viendra évidemment, il y a d'autres morceaux qui empruntent à ce qu'on appelle le répertoire traditionnel. Est-ce que, dans ce que vous disiez tout à l'heure, l'espèce de mue, l'épreuve, le passage, il y avait l'idée d'aller vers une écriture de texte, quelque chose de plus affirmé de ce côté-là?
Tout à fait, tout à fait. Il y avait, dans l'écriture de La Virée, donc le disque précédent, il y avait en graine déjà cette envie que l'interprétation, la composition, ce soit des choses qui se floutent, qui commencent à se tutoyer et à se fondre un peu l'une dans l'autre. Et ce processus-là, qui était déjà en route pour la virer, il a continué dans le dans le laps de temps qui s'est écoulé entre les deux disques, et d'un côté dans les concerts que j'ai pu faire, et puis pour l'enregistrement de l'Esprobe. Et j'avais clairement le souhait de franchir un cap, c'est-à-dire d'avoir une part plus grande de d'écriture de textes, de mots, quoi, de la matière, de la parole à chanter, quoi. Voilà.
Mais de la parole à vous, parce que vous disiez que finalement vous poussez à un point, en effet, où se tutoie, voire se confond, ce que c'est que d'interpréter une chanson qu'on n'a pas écrite, mais qu'on reprend si personnellement qu'elle peut devenir sienne. Mmh. Et en effet, les choses se confondent. Et d'ailleurs, quand on entend cette musique-là, on pourra aussi parler de la manière dont elle est tellement composée d'autres choses que là aussi, la composition, elle est... L'idée n'est pas de dire c'est absolument ma musique, mais en revanche, ce qu'on entend là, c'est que c'est absolument vos mots.
Oui.
Et qu'il y a quelque chose qui me semble vraiment être un nouveau pas dans la musique, parce que d'un seul coup, ce qu'on entend, c'est une poésie, sont vos mots, votre écriture.
Exactement.
Comment est-ce que cette poésie-là, ou la possibilité qu'elle advienne, a été nourrie de tout le reste? De votre rencontre avec justement d'autres chansons, d'autres répertoires?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a. Il y a quelque chose de contenu, en tout cas dans l'interprétation de thèmes traditionnels. C'est le fait que moi, c'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis intéressé à ces répertoires, c'est que on entend souvent les interprètes, les gens qui sont collectés, qui donnent les chansons qu'ils connaissent, on entend leurs mots. On entend leur façon de dire, leur biais particulier d'articuler quelque chose ou même de construire certaines phrases pour un même chant, un même type de chanson. Par exemple, les rossignolets. Eh ben, un rossignolet par une personne.
C'est quoi un rossignolet?
Un rossignolet, c'est un type de chanson qui parle du rossignolet sauvage, qui est l'oiseau qui représente l'amour, qui est un peu l'oiseau entremetteur, l'oiseau auquel les amoureux s'adressent. Voilà. Et ben ça, c'est un truc très très répandu. Et en fait, chaque interprète a des tournures de phrases différentes. Vraiment. Et pour moi, ces petites variantes là, j'y suis très attentif parce que j'aime bien. Je trouve que ça justement, curieusement, de l'épaisseur parce que ça dit beaucoup de la personne qui interprète. Et donc, pour moi, il y a une petite graine déjà là-dedans de dire avec mes mots, dire quelque chose qui n'est pas forcément vouloir. Signifier un truc qui m'appartient, mais formulé avec mes mots. Et dans un mouvement un peu parallèle, en fait, à mesure que j'ai augmenté un peu mon répertoire pour les concerts, que j'ai commencé à travailler sur d'autres chansons, j'ai déroulé pas mal la bande du réservoir de chansons et de thèmes qui pouvaient me plaire. J'ai essayé plein de combinaisons différentes et j'ai senti en fait qu'il y avait un pas à passer et que ce pas c'est celui de d'être dans la position un peu timide derrière ces chansons qui sont très fortes et de passer à une prise de risque qui est de dire oui, d'accord, ces chansons existent là, elles sont très fortes, mais il faut aussi en générer, il faut en fabriquer, parce qu'en fait de tout temps les gens ont fabriqué des chansons et il faut pas se couper de ce qu'on est. Voilà. Et donc pour pas se couper de ce qu'on est, la chanson traditionnelle, la musique traditionnelle, c'est aussi de l'invention, c'est aussi prendre le risque de dire des trucs pas forcément bien digérés. Et c'est sûr qu'il n'y a pas 300 ans derrière cette chanson.
Oui, mais il peut y en avoir, et c'est ça que je trouve assez beau dans ce que vous dites, Ernest Berger, c'est que peut-être il y en aura 300 ans, c'est-à-dire d'avoir, vous, eu le bonheur de chanter des mots qui ont traversé pour certaines plusieurs centaines d'années, des chansons, vous dit que peut-être ça fait partie du jeu que d'en remettre dans la machine.
Exactement,
des mots.
C'est ça, il faut renvoyer un peu la balle. Je pense remettre un peu de pièces dans le jukebox, quoi. Parce que sinon, bon, après, on peut répéter éternellement les choses, mais d'ailleurs, en fait, on les répète pas, on les transforme tout le temps. Donc ça, j'ai confiance complètement. Mais j'ai l'impression que, enfin, j'ai, en tout cas.
D'ajouter votre poésie à tout ça, c'est le jeu, quoi.
Ouais, c'est le jeu. Ouais, puis je crois que ça fait, pour moi, ça fait partie de la démarche, quoi.
Peut-être revenir sur la musique à proprement parler, même s'il est difficile de la séparer complètement des mots, mais quand on entend votre violon, moi je me suis dit que ça pouvait être une flûte marocaine, que ça pouvait être vraiment de la très vieille musique gnawa, que, en tout cas bon, qu'elle était vraiment très traversée, votre musique de violon. Par quoi, si on essaye de dire deux, trois courants qui la traversent, dans ce morceau-là par exemple
l'ère culturelle méditerranéenne. Vraiment. Il y a un truc comme ça. Moi, j'écoute beaucoup de musique du Maghreb. J'écoute beaucoup de musique du monde arabe.
De la musique contemporaine,
musique
de la
traditionnelle.
Traditionnelle.
Ouais, ouais. Musique populaire. Et le violon, depuis que j'ai commencé le violon, j'ai une sorte de lubie qui est celle de jouer des quarts de ton, donc de jouer des intervalles qui sont inférieurs aux intervalles qu'on a entre les notes, les touches d'un piano, quoi.
Et qui se retrouvent plutôt dans les manières de composer de la musique qu'on dit orientale.
Exactement. Et donc je le fais en total autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas du tout appris, je connais pas les modes de la musique orientale, je connais pas, j'ai aucun bagage théorique là-dessus. Par contre, à l'oreille, en fait, c'est quelque chose que j'entends, que je travaille.
Qui vous émeut
énormément, et aussi au niveau du chant. Et donc là, bah, dans l'entendu, le morceau qu'on vient d'entendre, le violon, il est l'intonation, elle est avec des écarts un peu plus étroits que les touches du piano, quoi. On peut pas jouer ça sur un piano.
Ça vous fait plaisir en tout cas.
Ouais, ouais. Parce que j'aime pas le piano. Les temps qui courent, Marie Richeux.
Le fait de trouver des ferments, des choses qui, moi, en tant que musicien, me transportent ailleurs, me sortent un peu de mon chez-moi musical et m'invitent au voyage, j'allais dire, m'invitent à découvrir un peu plus loin, trouver de nouvelles matières, de nouvelles tournures mélodiques, de nouvelles façons d'harmoniser un thème qui peut-être n'était pas destiné à l'être au départ, de nouvelles tournures rythmiques aussi. Et là, les musiques extra-européennes sont évidemment très riche d'enseignements. Et puis, le timbre, bien sûr, puisque ces musiques-là, quoi qu'on en dise, travaillent énormément sur le timbre, sur une sensibilité différente du timbre. Quand on entend jouer des gens qui sont issus en ligne directe de ces traditions, que ce soit maintenant, hélas, beaucoup sur des enregistrements ou dans d'autres pays en vrai, on entend une manière de faire sonner l'instrument redoutablement efficace. Efficace, c'est peut-être pas un mot très joli, mais voilà, où l'instrument sonne pleinement, où on sent que la fonction de la musique aussi, qui peut être entre autres celle de la danse, est pleinement assumée et motive aussi cette utilisation de l'instrument, vraiment, qui va chercher les recoins du son.
C'est la voix de Frédéric Aurier au micro de Clément Lebrun. Il fait partie du quatuor Bella, et juste avant c'était une polka au violon interprétée par Mats Eden. Frédéric Aurier qui dit qu'au contact d'autres musiques, et vous avez commencé à le dire, Ernest Bergès, il a comme épaissi son violon, élargit sa possibilité de jouer du violon, et notamment à travers la fonctionnalité de faire danser avec son violon. Vous, ça fait combien de temps que vous en jouez, et comment est-ce que vous faites bouger le champ de votre possible utilisation de cet instrument-là ?
Alors, le violon, pour moi, c'est une histoire relativement récente. J'ai commencé il y a 6 ans, avec... aucune autre motivation que de faire du son. J'avais pas envie de jouer du violon. En fait, j'avais acheté un violon pour faire des bourdons, quoi. J'étais plutôt inspiré par Tony Conrad et ce genre de musique-là, musique.
C'est-à-dire
musique de bourdons, de son continu. Donc, on prend l'archet, on pose l'archet sur les cordes et puis
on y va,
quoi. Donc voilà, j'ai commencé à jouer du violon comme ça. Et j'en avais à peu près rien à faire de savoir comment il fallait manier l'instrument et comment ça marchait. Et en fait, en l'espace de quelques années, je me suis mis à en jouer vraiment. Avec aucune autre volonté que celle d'apprivoiser l'instrument. Donc voilà, et puis... de fil en aiguille, en fait, la première chose, ça a été de me dire, ok, je joue vraiment de cet instrument, donc je vais le travailler, je vais y dédier du temps, je vais me mettre à l'aimer plus. Donc c'est ce qui s'est passé. Pour l'aimer plus, il a fallu que je range mon premier violon acheté quelques euros sur internet pour en prendre un deuxième un peu mieux. Et de fil en aiguille, comme ça, c'est devenu un peu plus sérieux. Ça a pris du grade. Je me suis beaucoup appliqué à reproduire des modèles traditionnels de bourrée auvergnate pour apprendre, juste comprendre comment ça marche. Et quasiment en même temps, j'ai essayé d'aller choper des choses dans la musique du Maghreb, la musique arabe, toutes les musiques avec justement les fameux quarts de ton, parce que j'avais envie de ça. Et ça s'est fait en relation directe avec la voix. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir appris à chanter en même temps que j'apprenais à jouer du violon. Les notes se formaient ensemble. Donc ça, c'est aussi une relation très forte. Parce que je pense qu'il y a une influence de l'un sur l'autre en permanence. Il y a vraiment des moments où je chante comme je joue du violon et vice versa. Donc voilà.
C'est très fort. Parce que ça veut dire que vous avez réussi à faire en sorte que jouer du violon, c'est-à-dire quand même en passer par un instrument extérieur, puisse être tant intégré à votre corps qu'il se rapproche que de faire vibrer des cordes vocales, ce qui est quand même très intériorisé comme manière de jouer de la musique.
Ouais, mais je crois que... Enfin, je sais pas, c'est sans doute pas comme ça pour tout le monde, mais je trouve que dans la relation avec le violon, il y a quelque chose de très intime. Parce que c'est quand même un petit morceau de bois qu'on approche de soi, qu'on peut coller contre ses os. Quand on en joue, on ressent les vibrations... qui se transmettent par les os. Je sais que les violoncellistes aussi en parlent beaucoup. C'est encore plus fort chez les violoncellistes parce que ça crée des basses fréquences qui passent mieux dans les os. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai ce rapport assez intime et puis physique avec l'instrument qui fait que c'est vraiment une affaire de corps, en fait. Donc la voix aussi, ça, pour moi, comme tout ça arrivait en même temps, ben ça a fait un peu une seule et même chose.
Ce que dit Frédéric Aurier aussi, c'est qu'il a beaucoup appris en écoutant des violons qui avaient pour vocation de faire danser et qui assumaient l'idée qu'ils devaient faire danser avec le violon. C'est aussi le cas d'une partie de votre musique avec Sourdure.
Vraiment.
Vraiment, le violon ne triche pas sur le fait qu'on peut lever les pieds en rythme sur les notes qu'il joue.
Exactement. Mais c'est d'ailleurs le violon de la musique à danser Auvergnat qui m'a donné la motivation de travailler. Et en fait, c'est vraiment... C'est ça que j'ai visé. Je me suis dit, il faut que je réussisse à jouer des bourrées. Il faut que je réussisse à jouer des scottish. Il faut que je réussisse à jouer des mazurkas et faire danser les gens.
Et avec mon violon.
Avec mon violon. Et ça a pris vachement de temps. La première fois que j'ai vraiment animé un bal... quasiment, j'étais pas tout seul, mais en étant vraiment, en tenant la baraque, c'était l'année dernière, l'été dernier.
Et ça fait peur.
Ça aurait pu me faire peur, là ça allait. Ça allait, mais ouais, les années précédentes, j'avais très envie, mais j'avais une appréhension, parce que c'est, il y a des enjeux, il faut maîtriser un petit peu, il y a une maîtrise technique, et puis il faut que ça marche.
C'est pour ça qu'il parlait d'efficacité, voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Frédéric Aurier disait le violon est efficace. Faut que ça marche, faut que ça danse en fait.
Faut que ça danse, faut que ça groove, faut que ça balance, faut que ce soit tonique, faut que ça lève la poussière un peu quoi. Sinon, les gens ils se disent qu'ils dansent parce que il faut danser, mais ils attendent que le musicien suivant arrive quoi.
Educarse y educar, ça c'était la maxime, c'était la devise de sa vie, s'éduquer et éduquer, c'est-à-dire se parler à soi-même et parler aux autres, leur parler d'eux-mêmes et leur parler du monde, se déchiffrer en déchiffrant les autres, se comprendre en comprenant les autres, prendre sa propre mesure en prenant la mesure du monde de lui-même. Mais l'occitanisme c'est... je sais pas comment dire. C'est pas un mouvement isolé dans le monde. C'est pas un mouvement qui est destiné à mettre un péage au nord de la Loire. C'est simplement un mouvement, je crois. Enfin, c'est comme ça que moi-même je l'ai imaginé. J'ai essayé de le mettre en pratique. C'est rendre à chacun, reconnaître à chacun ce qu'il est. Avec son propre poids d'humanité, avec son propre poids de culture, ce qui ne dénie en aucune façon les cultures voisines ou les cultures les plus lointaines, bien entendu.
Ernest Berger, c'est un extrait de votre premier disque qui s'appelle La Virée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau ?
Alors, Jeanne d'Aimé, Jeanne d'Aimé, c'est un morceau que j'ai construit à partir d'un collectage auprès d'une chanteuse du Cantal qui s'appelait Pauline Bach, et qui est un enregistrement vraiment magnifique qui m'avait vraiment beaucoup touché.
Fait par vous ?
Non, non, du tout, du tout. Non, non, c'est un. Alors, je saurais pas vous dire de par qui il a été fait, mais c'est un enregistrement qui est assez
fameux.
Fameux, exactement, disons-le. Et sur lequel j'avais bien flashé, et notamment sur la langue, parce que la langue telle qu'elle m'apparaissait là, donc l'occitan auvergnat. Je trouvais ça vraiment magnifique. Et j'ai eu envie de me saisir de ça et de commencer à chanter cette langue. Parce que la matière me plaisait musicalement. Et puis ça a l'air savoureux en bouche. Donc j'ai en fait vraiment travaillé un peu au microscope dessus, de façon assez...
Avec l'enregistrement,
à essayer de dire, ah là, elle dit quoi ? Est-ce que c'est plutôt un U ou un E ? Ou à chaque petit bout de son, j'essayais de savoir.
Sans maîtriser cet occitan ?
Sans maîtriser, du coup, en ayant appris avec les traductions de quoi il s'agissait, donc je connaissais l'histoire.
Et c'est quoi l'histoire ?
C'est l'histoire de Jeanne et du fils du prince. Jeanne qui dit, en gros, qui annonce au prince qu'elle est enceinte de lui. Et lui, il s'en souvient pas trop. Il fait « Ah bon, mais comment ça ?» Je m'en souviens pas du tout.
Il s'en souvient pas qu'elle est enceinte ou qu'ils ont fait l'amour ?
Non, qu'ils ont fait l'amour. Voilà, et puis ça se termine. Et en fait, quand il comprend que c'est la vérité et que c'est comme ça, il dit « Viens demain, on achètera les robes et le cadenas d'or. » Sous-entendu, ils vont se marier. Voilà. Donc, cette chanson... que je sais pas grand chose d'autre à son sujet. Au début, j'avais aucune maîtrise de l'occitan. Et aujourd'hui, c'est intéressant. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas réécouté. C'est intéressant de me réécouter parce que on entend vraiment ce que c'est. On entend quelqu'un qui s'est saisi de la langue et qui fait ses premiers pas avec. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez. Enfin, pour moi, c'était vraiment magique. Parce que je sentais la langue passer, je sentais les sons, mais sans maîtriser. Et voilà, bon, c'est un peu un truc un peu de funambuliste, quoi.
Oui, mais de funambuliste dont on sent qu'il est ému par cette langue qui le traverse, et certainement peut-être aussi parce que vous découvrez là que vous avez quelque chose à voir avec ça.
Exactement.
Et que c'est une forme de surprise qu'on entend dans votre émotion à chanter et qui... du coup, nous émeut. Qu'est-ce que vous avez appris finalement à écouter au microscope cette Pauline Bach ?
L'attitude de sa bouche. Je sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire les positions, comment elle parle.
Mais qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Parce que juste avant, dans l'archive de Claude Marty, il y avait l'idée que, en fait, en entendant, en écoutant les autres, en comprenant les autres, on se comprenait soi.
Ouais.
Et donc, on ne peut pas imaginer que vous ayez passé des heures, des heures, des heures, des jours entiers à reproduire au millimètre près l'attitude de la bouche de Pauline Bach sans avoir compris quelque chose sur l'attitude de vous-même.
D'abord, j'ai compris que j'étais pas une mamie. Que j'avais beau essayer de faire, dans mon idée, le mieux possible, c'était toujours moi essayant de faire le mieux possible. Et que donc, de toute façon, il n'y avait pas de remède à l'apprentissage. Donc, et de toute façon, il n'y avait pas de remède à l'apprentissage. Et mon souhait, c'était d'apprendre. Donc, c'était le début, en fait. C'était vraiment les balbutiements. Et, mais c'est un premier contact assez fort parce que il y a des mots que j'ai appris à comprendre un peu comment ça se tisse, en fait, cette langue. Et il y a des trucs que j'ai compris longtemps après. Même en ayant la traduction, en fait. En revenant.
Dans le sens, vous voulez
dans
dire?
Dans le sens, ouais. Dans le sens, dans des petites finesses. Là, comme ça, j'ai pas les choses en mémoire. Mais en fait, quand on comprend, on peut comprendre globalement le sens. Parce que j'ai l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Mais après, comprendre la langue à l'endroit où elle se joue, vraiment dans son.
Dans ses nuances.
Dans ses nuances, dans son théâtre. C'est autre chose. Parce que là, du coup, on comprend qu'on a, pour dire une chose, on va avoir 15 variantes, mais qui vont être à chaque fois des nuances utiles pour le même genre d'information. Et il y a ça dans les chansons très fort. Et c'est ce genre de finesse-là qui commence à m'apparaître aujourd'hui. Voilà.
Vous le disiez tout à l'heure, avec le projet Sourdure, vous avez vraiment déroulé tout un répertoire de chansons possibles et les avez approchées et les avez travaillées, recomposées, jouées en concert ou mises et fabriquées pour des disques. C'est aussi la découverte d'un monde entier, d'une histoire, de l'Occitan, mais aussi de patois, de certains endroits de France, mais aussi, par exemple, d'interdiction de parler ces langues-là, d'enjeux extrêmement politiques, en fait,
à
cet endroit de la langue et de l'interprétation de ces chansons. Qu'est-ce qui s'est ouvert à vous que vous ne soupçonniez pas?
Très vite. D'abord, j'ai voulu apprendre la langue, et très vite, ce que j'ai senti, c'était que c'était quelque chose de vital.
Pour vous?
Ouais. C'était vital sur le plan, je vais dire un gros mot, psychique. C'est comme d'avoir un espace de pensée qui soit un espace dédié à la construction, à l'envie d'aller vers le monde. Un espace de partage possible, d'hypothèses de monde possible. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment comme ça. Je sentais quelque chose. Voilà, je cherchais ce mot providentiel. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de la providence. Et de la providence intime. Parce que c'est éminemment intime. C'est une langue des maisons. C'est une langue qui dépassait des fois pas le pas de la porte, mais je me rends compte aujourd'hui qu'elle est présente partout. En venant, donc j'étais à Brest hier et avant-hier je passais par Paris. Dans le chemin entre Clermont et Paris, j'étais à côté d'un monsieur avec qui on s'est mis à parler et en très peu de temps il s'est mis à dire des mots en occitan et j'étais là, wow. Ah mais parler sous sitar, c'est extraordinaire. Et ben oui, ben en fait.
Et il a dit quoi?
Je me souviens
non,
plus.
Non, il
exactement.
Était étonné que vous parliez.
Non non. Ah non non, ça lui paraissait normal. Il était content. Mais en fait, j'ai l'impression maintenant que en Auvergne, on bouge une pierre et on trouve un occitanophone ou du moins quelqu'un qui l'a entendu. Alors qu'avant, il y a un an en arrière, j'étais à dire. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça. S'ils sont là, ils sont bien cachés. Donc voilà, c'est un processus un peu long avant de voir la langue vivante, quoi.
Mais parce qu'elle est cachée, cette langue-là? Elle était cachée peut-être à vos oreilles.
Ouais, elle était déjà cachée à mes oreilles, ça c'est sûr. Et puis après, c'est très affectif la question du patois. Il y a des gens qui ont grandi en entendant parler patois à la maison et seulement patois, qu'ils le comprennent mais qu'ils ne le parlent pas et qu'ils l'ont pas transmis à leurs enfants. Mais pour eux c'est quelque chose de très important. Enfin c'est très important. Comment dire? Ils y tiennent. ça les émeut, mais ils le parlent pas parce qu'au moment où ils ont grandi, on était plutôt dans une logique de progrès, et on associait au progrès l'idée
d'un français commun.
D'un français commun, et c'était aussi pour des raisons très concrètes, hein, de trouver du boulot, accéder à un niveau de vie un peu plus élevé, et du coup, en fait, le patois, ça remue tout ça quand même très fort, donc ça remue des choix de vie vraiment, ça remue des existences. Donc c'est un peu délicat. Je pense qu'on ne met pas son nez là-dedans comme ça, en disant « Ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas patois, vous ?»
Ce que vous avez posé comme question, vous, à des générations...
Ouais, je pose la question. En général, déjà, je demande « Mais les parents, ils parlaient patois ? À Paris, les Auvergnats, est-ce qu'ils parlaient ? Comment ça se passait ? Est-ce que ça parlait Auvergnat à la maison ?» etc. Mais parce que j'essaie de comprendre.
C'est marrant que vous ayez fait tout à l'heure écho à la musique maghrébine, parce qu'en vous écoutant, je me dis c'est exactement ce que disent certains enfants ou enfants d'enfants d'immigrés qui, pour s'intégrer, ont reçu de leurs parents le mot d'ordre de parler un français, le français commun, pour trouver du travail, et donc ont parfois refoulé, le marocain, l'algérien, le tunisien ou l'arabe littéraire, et l'histoire se répète.
Ouais. Je pense, c'est vraiment très proche.
Je pense qu'on peut trouver de la musique dans l'environnement. Mmh. Je pense que l'environnement n'est pas par défaut musical, mais que à travers le geste de l'écoute et de la pratique des micros, on peut en tirer une forme de musique, qu'on peut qualifier de musique expérimentale. Moi, je m'inscris totalement là-dedans. Ouais. Utiliser le microphone, finalement, sur le terrain, comme une forme de composition, travailler sur des espaces dont on maîtrise pas forcément la matière, je dirige pas grand chose, hein, finalement, à part le placement de mes micros et mon écoute sur le terrain. Donc là, sur le processus, oui, il y a une forme de procédé expérimental, sans nul doute, mais aussi sur la forme, sur l'esthétique que prennent ces compositions, sur l'esthétique que prend ce résultat, qui prend des formes loin des schémas musicaux traditionnels. J'ai jamais souci de vouloir recréer du réel. Ce qui m'intéresse, comment on pourrait dire ça ? Peut-être que c'est l'étrangeté du réel. Mmh. Comment je peux utiliser mon écoute de manière extrêmement subjective jusqu'à capter et puis éventuellement composer après ? Parce qu'il y a une partie de mes travaux qui sont de l'ordre de la phonographie, c'est-à-dire que les enregistrements sont pas travaillés et sont gardés pour leur qualité intrinsèque. Et puis après, il y a des compositions qui sont, pour le coup, plus proches de la musique électroacoustique peut-être, où les field recordings, les enregistrements de terrain, sont mélangés entre eux, dans une optique de composition voilà, qui est proche de l'électroacoustique, de la musique électronique.
On entend la voix de Tomati au micro de Clément Lebrun sur France Musique dans l'émission Le Cri du Patchwork en 2016. Ernest Bergès, peut-être pour vous faire parler de votre travail à la fois aux machines et en studio, il dit finalement ce que je contrôle dans la manière dont je fabrique ma musique, c'est peut-être le moment où je place mes micros, mais le reste, une partie du reste m'échappe et appartient à ce qu'est un environnement et à la dimension musicale de cet environnement. Vous avez toujours eu tendance à dire qu'il y avait dans votre manière de travailler au studio une manière de compositeur, une manière déjà d'être interprète et compositeur en même temps, c'est-à-dire
Déjà, si on parle des micros, parce que je travaille avec des micros aussi. Pour moi, il s'agit de effectivement capter une réalité sonore à un moment, mais j'essaye en fait d'être dans la musique tout de suite. C'est-à-dire que je fais en sorte pour que quand j'enregistre, ça fasse tout de suite une musique qui m'inspire. Et que ce soit déjà un geste.
Mais ça passe par quoi ? Ça passe par le choix du micro ? Ça passe par un effet tout de suite mis, par exemple ?
Ouais, ça. En fait, je pour parler un peu techniquement, j'utilise. Enfin, j'ai une manière de faire assez destructive, c'est-à-dire que je vais enregistrer, je vais pas enregistrer chaque source complètement claire, sans aucun, complètement propre, sur laquelle je vais travailler, mettre des effets, etc. Je le fais, ça. Mais j'ai tendance à enregistrer des matériaux qui sont déjà très riches et très définis, qui sont esthétiquement déjà choisis. Et du coup, les micros que j'utilise, j'utilise des combinaisons de micros très différents.
Qui sont déjà actifs, en fait.
Voilà, qui sont... Il y en a qui vont être, ben, comme les micros qu'on a ici, très très sensibles, qui vont reproduire le spectre d'une voix ou d'un instrument de façon très précise et qui vont donner un résultat. Mais par exemple, on a écouté le premier morceau qu'on a écouté, l'entendu, a été quasiment enregistré dans sa totalité avec un dictaphone cassette. Donc c'est un tout petit micro. Qui souffle énormément. D'ailleurs, on entend le souffle dans le morceau. Et le souffle fait partie de la musique. C'est vraiment le choix de cet appareil définit complètement le décor.
Qui est déjà un geste de composition, en fait.
Voilà, exactement. Et pour moi, ça fait partie de ma façon de composer. Donc des fois, bah, je vais dire, en fait, là, j'ai besoin d'un micro super clair. Je veux une voix de variété. Bah, je vais faire un son de voix de variété, et puis voilà.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de post-production ou que quand même, c'est quand même une dimension qui vous intéresse?
Si, oui, c'est quand même une dimension qui m'intéresse. Et puis là, je dirais que la post-production, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose.
Oui, finalement,
que
il
n'y
a plus
micro.
Cette séparation entre la production et la post-production.
Ouais,
c'est-à-dire que la question du mix, du traitement, des effets, etc. est immédiatement là.
Exactement, exactement. Et j'essaye de camper assez vite le décor. Alors ça m'arrive des fois de pas trouver, et du coup de manier, et ça arrive que ça marche pas, et puis ça arrive que au bout de X transformations, un morceau prenne forme. Mais en tout cas, tous les outils que j'utilise, à part, on va dire, les outils qui servent à faire de la correction, ça, on peut mettre ça de côté, mais les outils que j'utilise, en fait, je m'en sers pour jouer. C'est du geste. Et du coup, par exemple, pour l'enregistrement de l'Esprob...
Quel titre qui donne son titre à l'album?
Qui donne son titre. Oui, bah, c'est le titre de l'album. Il n'y a pas de morceau qui s'appelle Esprob. Ah, il y a un morceau qui s'appelle L'Escribote.
Ah, bah, ouais.
Mais c'est proche. Mais du coup, pour l'enregistrement de ce disque, en fait, j'ai enregistré beaucoup de moments d'improvisation, en fait. Avec différents instruments, avec différentes situations. Et chaque situation donne un décor. Donc, là, il y a donc ce morceau qui est tout fait avec un dictaphone. Il y a des morceaux qui sont faits en couches successives. Donc, c'est pas un seul endroit, c'est une strate. Et à chaque fois, ça raconte des choses différentes.
On va terminer par écouter Oiseau creusé. Pour ce morceau-là, il a été fait comment rapidement? Il appartient plutôt au morceau à strate ou au morceau plus direct?
Ah, c'est très direct. Oiseau creusé, je pense que j'ai pris le violon. J'ai commencé à bidouiller avec, et en fait je me suis dit que j'allais faire un morceau avec le violon et la voix qui fonctionnent en direct relation, et donc il a fallu écrire un texte pour que ça marche, et en fait j'ai écrit le texte en chantant comme ça, je prenais les mots qui venaient, et de fil en aiguille, je prenais la première idée était la bonne, donc Oiseau creusé, c'est comme ça, c'était la première idée qui est venue. Et puis, en fait, ça s'est déroulé un peu à la façon d'une écriture automatique, quoi. Et puis, j'ai compris le sens a posteriori. Thank you.
Pour moi, c'est vraiment une chanson sur les réfugiés.
Ah ouais?
Ouais. Du pétrole, de la colle grasse sur ton plumage joli, ta chair est toute veineuse, on n'y mettrait pas une dent et ton pays, tout atrophié, lentement se meurt dans ta cervelle.
Ah, c'est fou! J'avais jamais pensé à ça.
Dis pas ton nom pour t'inviter au grand ballet. Tu vois, genre, c'est pas la peine de dire ton nom, c'est pas la peine de montrer patte blanche pour t'inviter au grand
c'est
ballet.
C'est vachement plus beau comme.
Petit à bon marché, par mondanité à acheter, petit soulier à emprunter, sont pas faits à tes serres crochues. Ah.
C'est vachement plus beau.
Oiseau
comme,
creusé, moi je vois aussi un animal affamé.
Ah ouais, c'est fou.
On termine avec un extrait de ce vraiment très beau disque, Les Proba, dont je disais qu'il est sorti chez Pagans, et les disques du festival permanent. Vous serez en concert Sourdure demain soir le 19 mai à Jouet-les-Tours, au Temps Machine, le 24 mai au Cirque Électrique, au Lila, en région parisienne, à Clermont-Ferrand, au Raymond Bar, le 25 mai, à Lyon, au Périscope, le 26, et le 27 mai, à Genève, à la Cave 12. Merci beaucoup.
Merci.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture avec Joël Leandre. Ce soir au son, Renaud Fluzin, Lise-Marie Barré à la réalisation. Léa Mormin-Chauvac, Romain de Bac de Lièvre, Jeanne Aléos m'aident à penser cette émission. Et vous pouvez évidemment la réécouter sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast. He gonna rise and fly, oh, sugar. He gonna rise and fly, oh, baby. Oh, well, he hang it on the dial, on the dollar. He gonna rise and fly, well, well, the Lord, Lord, the Lord, he rolling. Well, the Lord, yeah, Lord, baby. Well, the Lord, Lord, the sugar. Well, the Lord, yeah, well, with rocks and ground for the maker, to make a solid roll of the sugar. And take a rock and ground for the maker, to make a solid roll. Well, and take a rock and ground for the grabber, to make a solid roll of the sugar. And take a good looking wine for the maker, to make a good looking hole. Well, and make a good looking hole.